Chapitre 8. Anastasis. La peur a détruit plus de choses en ce monde que la joie n'en a créé. Paul Morand. Depuis son adolescence, ma sœur avait toujours manifesté un côté lunatique et mélancolique, un caractère que je qualifierais de cyclothymique. Daniel Lovenstein parlait d'une voix empesée. Devant l'insistance de Matthew, il avait finalement accepté de le laisser entrer et de lui raconter l'histoire d'Emma. « Son moral variait fortement », poursuivit Lovenstein. « Un jour, c'était la jeune femme la plus heureuse du monde, débordant d'enthousiasme et de projets. Le lendemain, elle broyait du noir et ne trouvait de sens à rien. L'alternance entre des états euphoriques et des périodes dépressives s'est accélérée avec le temps. Ces dernières années, il m'est apparu évident qu'elle souffrait d'un trouble de la personnalité. Pendant de longs mois, vous pouviez avoir l'impression qu'elle allait bien, mais il y avait toujours une rechute plus grave que la précédente. » Il s'arrêta quelques secondes pour prendre une gorgée de thé. Les deux hommes se faisaient face, enfoncés chacun dans un fauteuil capitonné. Triste et froide, la pièce était plongée dans la pénombre, comme hantée par le fantôme d'Emma. C'était surtout ses relations amoureuses qui lui faisaient perdre pied, confia Daniel Lovenstein d'un ton amer. Emma s'enflammait trop facilement pour certains hommes, et la déception qui s'ensuivait n'en était que plus douloureuse. Au fil des années, elle ne nous a rien épargné. Crise d'hystérie, tentative de suicide, scarification, séjour en HP. Elle n'a jamais officiellement été diagnostiquée comme bipolaire, mais pour moi, il ne faisait aucun doute qu'elle l'était. Plus les confidences se précisaient, plus Matthew se sentait mal à l'aise, tant la rancœur du frère pour sa sœur était palpable. Mais quelle était la part de vérité dans ce récit? Lovenstein n'hésitait pas à lancer des hypothèses qui, à ce que comprenait Matthew, n'avaient jamais été validées médicalement. Daniel se pencha pour saisir les photos sur la table basse. Il y a 3 mois, au cours de l'été, elle a renoué avec un de ses anciens amants. Ce type-là, précisa-t-il en désignant l'homme qui se trouvait avec Emma sur les clichés. C'est un Français, François Giraud, l'héritier d'un vignoble du Bordelais. Il l'a beaucoup fait souffrir. Une fois de plus, Emma a été trop crédule. Elle a cru que cette fois, il était prêt à quitter sa femme. Ce n'était pas le cas, bien sûr, alors elle a fait une nouvelle tentative de suicide qui s'est révélée fatale et... Son explication fut interrompue par les aboiements soudains du Sharpei. C'était le chien d'Emma, n'est-ce pas? Devina Matthew. Oui, Clovis. Elle y était très attachée. La seule personne, selon elle, à ne jamais l'avoir trahi. Matthew se souvint qu'Emma lui en avait parlé en employant les mêmes termes dans les mails qu'ils avaient échangés. Je ne voudrais pas remuer des souvenirs douloureux, monsieur Lovenstein, mais comment Emma est-elle morte? Elle s'est jetée sous un train, à White Plains, le 15 août dernier. Sans doute sous l'influence d'un cocktail de médicaments. En tout cas, il y avait des boîtes de pilules partout dans son appartement. Des benzodiazépines, des somnifères et d'autres saloperies. Submergé par l'évocation de ses souvenirs douloureux, Lovenstein se leva brusquement de son fauteuil pour signifier que l'entretien était terminé. « Pourquoi teniez-vous tant à parler à ma sœur ? » demanda-t-il en raccompagnant Matthew à la porte. Renonçant à lui expliquer ses véritables motivations, Matthew botta en touche en lui adressant une nouvelle question. « Pourquoi avez-vous organisé la vente de toutes ces affaires ?» L'argument toucha Lovenstein au vif. « Pour faire table rase. Pour me détacher d'Emma, » répondit-il avec véhémence. « Les souvenirs me minent. » Il me tue à petit feu, il m'enchaîne aux ruines d'un passé qui m'a déjà suffisamment abîmé. Matthew hocha la tête. Je comprends, dit-il, en franchissant le seuil de la maison. Mais au fond de lui, il pensait exactement le contraire. Il savait que ce combat était illusoire. On ne peut pas liquider les souvenirs d'un simple coup de balai. Il reste en nous, tapis dans l'ombre, guettant le moment où l'on baissera la garde, pour ressurgir avec une force décuplée. De Matthew Shapiro à Emma Lovenstein. Objet, parlons-nous. Date, 21 décembre 2011, 13h45min3s. Chère Emma, si vous êtes devant votre écran, pouvez-vous me faire signe? Je pense que nous avons besoin de parler de ce qui nous arrive. Matt. 2. Matthew Shapiro à Emma Lovenstein. Objet, néant. Date, 21 décembre 2011, 13h48min14s. Emma. Je comprends que cette situation vous trouble et vous inquiète. Elle me fait peur aussi. Mais nous avons vraiment besoin d'en discuter. Répondez-moi, s'il vous plaît. Matt. Matthew cliqua pour envoyer son deuxième message à Emma. Fébrile, il attendit une longue minute, espérant que la jeune femme lui répondrait dans la foulée. Après sa visite à Daniel Lovenstein, il avait repris la Camaro pour rentrer sur Boston, mais au bout de quelques kilomètres, il s'était arrêté dans un diner sur les berges de la Charles River. Le Brand New Day était une antique voiture-restaurant chromée, fréquentée aussi bien par des promeneurs que par les étudiants d'Harvard après leur entraînement d'aviron. Installé sur l'une des banquettes en moleskine, Matthew avait sorti son ordinateur portable et s'était connecté au réseau. Il n'avait jamais été aussi perturbé de sa vie, jamais été aussi ébranlé dans ses certitudes. Les preuves s'accumulaient. La date des mails, le film envoyé par Vittorio, le témoignage du frère d'Emma lui révélant la mort de sa sœur, tout concourait à lui faire croire à l'incroyable. Grâce à cet ordinateur, il pouvait entrer en contact avec une femme aujourd'hui décédée qui recevait ses messages alors qu'elle vivait un an plus tôt. Comment était-ce possible? Il ne se l'expliquait pas, mais il pouvait d'ores et déjà dégager quelques règles. Il sortit le stylo et le calepin qu'il avait toujours dans sa poche et griffonna des notes pour clarifier sa pensée. 1. Emma Lovenstein reçoit mes messages avec un décalage d'un an jour pour jour. 2. L'ordinateur que j'ai acheté à la brocante est notre unique moyen de communication. Matthew leva la tête de son carnet et s'interrogea sur la validité de cette deuxième règle. Les faits étaient là. Emma n'avait pas reçu les mails qu'il lui avait envoyés depuis son téléphone, pas plus que lui n'avait reçu les messages qu'elle lui avait fait parvenir de son propre smartphone. Pourquoi ? Il réfléchit un instant. Si Emma était morte depuis 3 mois, les messages qu'il lui envoyait aujourd'hui sans passer par l'ordinateur devaient atterrir sur un compte que plus personne ne consultait. Logique. Mais que se passait-il pour les courriers qu'Emma lui envoyait en 2010 depuis son téléphone ? La logique aurait voulu qu'il les ait réceptionnés dans le passé, or, il ne se souvenait pas d'avoir lu de courrier signé Emma Lovenstein en décembre 2010. Il recevait certes beaucoup de mails, mais cela aurait dû le marquer. Il fouilla dans sa mémoire et trouva la solution. Il avait changé de fournisseur d'accès, donc d'adresse mail, depuis décembre 2010. L'adresse sur laquelle elle lui envoyait des mails avec son téléphone n'existait tout simplement pas à l'époque. Rasséréné d'avoir trouvé un peu de rationalité dans ce chaos, il nota une nouvelle remarque dans son calepin. 3. Aujourd'hui, en décembre 2011, je n'ai aucune possibilité d'entrer physiquement en contact avec Emma. Malheureusement, elle est morte. 4. Mais l'inverse n'est pas vrai. Il songea à cette possibilité. Si elle le voulait, l'Emma de 2010 pouvait à tout moment prendre un avion pour Boston et rencontrer le Matthew de 2010. Le ferait-elle ? Vu l'entrain qu'elle mettait à répondre à ses messages, c'était fort peu probable. Nerveux, il jeta un coup d'œil à l'écran d'ordinateur. Toujours aucune nouvelle de la sommelière. Il essaya de se mettre dans la tête d'Emma, une femme intelligente mais déstabilisée par ses émotions. Il la devinait fragile, effrayée et incrédule face à la situation. Lui avait la vidéo de Vittorio et la conversation avec son frère pour se convaincre de la réalité de ce qu'il vivait. Mais Emma n'avait pas ces éléments. Elle devait le prendre pour un fou et c'est pour cette raison qu'elle ne répondait pas à ses appels. Il devait trouver un moyen de la convaincre. Mais lequel ? Il regarda par la fenêtre. Jogger et vélo se partageaient la piste qui longeait la rivière, tandis que sur l'eau, les avirons fendaient les flots sous les cris des oies sauvages. Le diner s'était vidé depuis son arrivée. Sur la table en formica qui jouxtait la sienne, Matthew remarqua le journal qu'avait laissé un des clients. C'était le New York Times du jour, Il ramassa le quotidien et une idée prit forme dans sa tête. À l'aide de la webcam de l'ordinateur, il photographia la une du journal en mettant bien la date en évidence et envoya le cliché à Emma accompagné d'un petit mot. De Mathieu Shapiro à Emma Lovenstein. Emma, si vous aviez besoin d'une preuve que je vis en 2011, la voici. Faites-moi signe. Matt. New York. Emma parcourut le courrier et cliqua pour ouvrir la pièce jointe. Elle zooma pour agrandir la photo et secoua la tête. Rien n'était plus facile aujourd'hui que de truquer un cliché sur Photoshop. Ça ne prouve rien, espèce de taré. Boston. Le tonnerre gronda. Le ciel s'était couvert brusquement et un déluge s'abattit sur le diner. En quelques minutes, une foule bruyante envahit le restaurant pour se protéger de la pluie. Les yeux rivés sur son écran, Matthew ignora l'agitation. Toujours pas de réponse. Visiblement, Emma n'avait pas été convaincue par la photo. Il fallait qu'il trouve autre chose. Et vite. Il se connecta au site internet du New York Times et lança une recherche dans les archives du quotidien. En quelques clics, il mit la main sur l'information qu'il cherchait. Cette fois, Emma Lovenstein ne pourrait plus l'ignorer. De Mathieu Shapiro à Emma Lovenstein. Je vous dérange encore une fois, Emma. Même si vous ne me répondez pas, je suis certain que vous êtes devant votre écran. Vous aimez le sport, le basket? Si c'est le cas, vous savez sans doute qu'il y a aujourd'hui, je parle de votre aujourd'hui, un match très attendu. L'affrontement entre les Knicks de New York et les Celtics de Boston. Branchez votre radio ou allumez votre télé sur Channel 9 et je vous apporterai la preuve que vous attendez. Matt. Emma sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Chaque courrier de Matthew lui donnait l'impression que les mâchoires d'un étau se refermaient sur elle, menaçant de la broyer. Mais l'excitation se mêlait aussi à la peur. Elle rabattit l'écran, prit son ordinateur portable sous le bras et quitta son bureau pour emprunter l'ascenseur jusqu'à l'étage inférieur où se trouvait l'espace de repos du personnel de l'Impérator. Elle poussa la porte et entra dans une vaste salle aux murs clairs, meublée de tables en bois blond, de sofas et de fauteuils Vassili. Emma salua les gens qu'elle connaissait. Quelques employés qui papotaient en lisant des magazines sur un canapé moelleux, un groupe plus masculin qui s'était réuni autour du grand écran plat accroché au mur pour regarder un match de basket. Emma s'installa à une table, brancha la prise de son ordinateur, puis se leva pour aller se chercher une boisson au distributeur. Elle ouvrit sa canette en se rapprochant de la télévision.
La partie vient tout juste de reprendre au Madison Square Garden,
s'enthousiasmait le journaliste.
À l'orée de ce dernier quart-temps, les Knicks de New York mènent par 90 à 83. Depuis le début de la partie, les deux équipes nous offrent un face-à-face passionnant. Les joueurs des différentes formations rivalisent de...
Un nœud se forma dans le ventre d'Emma. C'était bien le match auquel avait fait allusion Matthew. Elle retourna s'asseoir pour suivre un peu à l'écart le déroulement de la partie. Après quelques minutes, un nouveau mail apparut sur l'écran de son ordinateur. De Mathieu Shapiro à Emma Lovenstein. Vous avez trouvé un écran ou un poste de radio, Emma? Pour l'instant, New York est largement devant, n'est-ce pas? Si vous regardez le match dans un bar ou un endroit public, je suis même certain que les hommes autour de vous sont déjà persuadés que leur équipe gagnera. Elle interrompit la lecture du mail pour lever la tête en direction du groupe d'employés scotchés devant le match. Rigolards, ils se tapaient dans les mains et applaudissaient à chaque point marqué par leur équipe. Visiblement, ils étaient aux anges. Elle poursuivit. Pourtant, c'est Boston qui va l'emporter sur le score de 118 à 116. À la toute dernière seconde. Souvenez-vous bien du score, Emma. New York, 116, Boston, 118. Vous ne me croyez pas? Regardez donc votre téléviseur. Son cœur cognait dans sa poitrine. Maintenant, ce type lui faisait vraiment peur. Crispée, les membres tétanisés, elle se leva difficilement de sa chaise et s'approcha pour suivre la fin du match en adressant des prières muettes pour que la prévision de Matthew ne se réalise pas.
Nous entrons à présent dans les 5 dernières minutes. New York mène toujours par 104 à 101.
Elle vécut les derniers moments de jeu avec appréhension. Pour dissiper son anxiété, elle essaya de respirer profondément. Il restait moins de 2 minutes de temps de jeu et New York menait toujours. 1 minute 30. Un panier des Celtics remit les deux équipes à égalité, 113 partout, puis un enchaînement de 2 tirs à 3 points de chaque côté rééquilibra la balance, 116-116. Emma se mordit la lèvre. Il restait moins de 10 secondes lorsque Paul Pierce, l'un des joueurs de Boston, perça habilement la défense et se débarrassa de son adversaire par un step back avant d'adresser un shoot et de marquer 2 points.
Boston mène de 2 points, 118-116. Les Knicks n'ont pas la chance de leur côté.
Tandis que le joueur fêtait son action, le stade se mit à gronder de déception. Paniquée, Emma regarda le chronomètre. Celui-ci indiquait 0,04. Il ne restait que 0,4 dixièmes de seconde. C'était perdu. Non. Car dès la remise en jeu, un joueur des Knicks tenta l'impossible. Un tir direct à 8 mètres du cadre. Dans une trajectoire miraculeuse, la balle rentra dans le panier.
« Un tir époustouflant !»
s'égosilla le commentateur.
« Stoudemire a sans doute inscrit le panier le plus important de toute sa carrière. New York remporte le match 118-119. »
Emma exulta avec l'ensemble de ses collègues, mais pas pour la même raison. Tout en elle se détendit brusquement. Matthew avait tort. Il ne vivait pas dans le futur, il n'avait pas pu prédire l'issue du match, elle n'était pas folle. Sur l'écran, l'enceinte de Madison Square Garden s'enflammait. Les joueurs new-yorkais entamaient un tour du stade, le public était debout et scandait des cris de victoire. Jusqu'à ce que l'arbitre demande à revoir l'action en vidéo et que les images montrent ce que personne n'avait voulu voir. Le ballon avait quitté les mains du joueur quelques centièmes de seconde après la sonnerie du buzzer.
Quel money time ! Au terme d'un match d'une intensité incroyable et d'un suspense hitchcockien, Boston a donc fait chuter les Knicks par 118 à 116, mettant fin à une série d'invincibilité de 8 matchs.
Prise de nausée, Emma se réfugia dans les toilettes de l'étage. « Je deviens dingue !» Elle était terrifiée, incapable de livrer bataille contre le démon intérieur qui dévastait sa raison. Comment donner un sens à ce chaos ? Un bidonnage paraissait invraisemblable. Le match était en direct et il n'était pas possible de truquer une partie aussi acharnée. La chance ? Peut-être Matthew avait-il lancé ce résultat au hasard ? Pendant un instant, elle se raccrocha à cette idée. « Merde. On ne peut pas communiquer avec un homme du futur. Ce n'est tout simplement pas possible. » Emma se regarda dans le miroir. Son mascara avait coulé. Son teint était cireux, cadavérique. Elle essuya les traces de maquillage avec un peu d'eau, tout en essayant de remettre de l'ordre dans ses idées. Un détail qui l'avait troublé remonta alors à la surface. Pourquoi ? Lors du premier courrier qu'elle avait reçu, Matthew lui avait-il écrit « Je suis le nouveau propriétaire de votre MacBook ». Qu'est-ce que cela signifiait ? Qu'elle avait vendu son ordinateur dans le futur ? Que ce type l'avait acheté d'occasion et que par une sorte de faille temporelle, il pouvait à présent correspondre en étant chacun sur une ligne de temps différente ? Ça ne tenait pas debout. Essoufflée, comme si elle venait de courir à 100 mètres, elle s'appuya contre le mur et prit soudain conscience de sa vulnérabilité et de sa solitude. Elle n'avait personne auprès de qui prendre conseil ou trouver du réconfort. Pas de vraie famille à qui se confier, à part un frère rigide et méprisant. Pas de véritables amis, pas de mec. Même sa psy, qu'elle payait une fortune, avait déserté. Un nom improbable jaillit pourtant de sa mémoire. Celui de Romuald Leblanc. S'il y avait une personne qui pouvait peut-être l'aider avec cette histoire d'ordinateur, c'était bien le petit génie de l'informatique. Le moral soudain regonflé, elle sortit des toilettes et monta dans l'ascenseur jusqu'à l'étage du service de communication. Il y avait quelqu'un d'astreinte Mais en ce samedi, le service tournait au ralenti et le stagiaire ne travaillait pas le week-end. En insistant, elle parvint à obtenir le numéro de portable du Français et l'appela sur le champ. Au bout de 2 sonneries, l'adolescent répondit d'une voix mal assurée.
« Allô ?»«
J'ai besoin de toi, Binoclard. Où es-tu ? Encore devant tes écrans à mater des filles en string ?